Bonjour, vous êtes sur RDC, Radiodiffusion Charentaise. Vous êtes sur RDC avec Stéphane, RDC 93.4 et 92.5, ou bien sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Il est l'heure de l'émission Donnez-nous vos notes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Une note, des notes, donnez-nous vos notes. Des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes aujourd'hui sur les ondes de RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4 et 92.5, sans oublier le site www.radio-du6rdcfm.com. Qui veut bien nous donner ses notes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Didier Nicole, c'est lui qui a accepté de nous donner ses notes. Auditrice, auditeur, bonjour, bienvenue sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5 pour l'émission Donnez-nous vos notes que j'ai le grand plaisir d'animer. Je ne doute pas que vous aurez plaisir à recevoir les notes que Didier Nicole va nous donner, que dis-je, nous offrir. Auditrice, auditeur, je vais vous dire aussi combien je suis touché par les nombreux témoignages de satisfaction que vous envoyez pour dire votre plaisir à écouter l'émission Donnez-nous vos notes. Allez, en route pour la saison 2, donc aujourd'hui nous partageons la deuxième émission. Bonjour Didier Nicole.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour Jean-Marc et merci à toi pour la technique que tu sais toujours déployer au bénéfice de toutes celles et de tous ceux qui t'ont écouté. Et merci encore également du soutien sans faille que tu apportes à l'animateur que je suis. Alors donc, aujourd'hui c'est Didier Nicole qui se prête au jeu, c'est lui qui va nous dévoiler son parcours, son choix d'entrer dans l'univers de la musique, sa formation, ses rencontres avec d'autres, ses envies culturelles, artistiques, musicales. Le tout sera sans doute teinté de l'expression d'un besoin de rencontre, d'un besoin de partage. Didier va nous dire comment il vit avec la musique, mais aussi comment la musique opère sur lui, ne serait-ce qu'à travers l'influence qu'elle a sur sa personne, sur son entourage. Didier Nicole va nous guider vers sa compréhension de la musique, sans doute celle qui permet l'écoute de soi et l'écoute des autres. Didier, vous êtes prêt?
Tout à fait.
Alors, Didier, Nicole, en route pour Donnez-nous vos notes. Avec Stéphane sur RDC pour Donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes. On commence tout de suite, Didier, par un premier extrait que vous avez choisi de nous faire entendre. C'est le Quatuor Arcadie. Alors, dans le Quatuor, il y a quatre. Présentez-nous cet ensemble.
Eh bien, c'est un ensemble de flûtes, spécifiquement. Donc, il y a quatre flûtes qui, tour à tour, passent de la flûte, on va dire, la plus connue en ut, et au piccolo, à la basse. Et c'est un ensemble que j'ai découvert, en fait, qui m'a donné envie de me mettre à la flûte quand j'avais 11 ans.
Quand vous avez 11 ans, on rencontre des flûtistes et on se dit « Ah, pourquoi pas moi ? C'est ça, je veux faire comme eux ?»
Voilà, c'est ce son qui m'a séduit tout de suite.
Ouais. Et puis, ce qu'ils vont jouer, c'est quelque chose de Bourdin, Roger Bourdin, c'est ça ?
Oui.
Ouais. C'est-à-dire, qui c'est ce Roger Bourdin ?
Alors, Roger Bourdin, c'est un grand flûtiste classique de renommée internationale, mais qui a aussi beaucoup fait de variété, de jazz. Et donc le titre que j'ai choisi, d'ailleurs c'est une composition qui fait plutôt penser à du jazz.
Alors on écoute le Quatuor Arcadie, une composition de Roger Bourdin qui d'influence jazz, on va dire, c'est ça?
C'est ça.
Alors voici Arcadie Bourdin. Dans quelques instants, les flûtistes s'échouent.
Thank you.
Une flûte, des flûtes, c'est étrange. Vous faites entendre des flûtes, Didier, il y a sûrement une raison. On en parlera tout à l'heure. Voici un autre extrait. Cette fois, c'est le même Roger Bourdin qui est l'interprète. Étrangement, c'est un flûtiste, tiens. Et il nous joue une composition de Théobald Böhm, je ne sais pas comment on dit.
Böhm,
ah oui. Et c'est cette composition que vous avez choisie. Qui c'est ce Théobald Böhm? Alors, qui c'était?
Théobald Böhm, c'est donc tout d'abord un flûtiste du 19e siècle. Et parallèlement, il a donc fait évoluer le système de la flûte, de clétage, et qui a permis notamment...
Le clétage, excusez-moi, c'est un mot que je ne connais pas.
Donc c'est toutes les petites clés qui permettent de boucher plusieurs trous à la fois sur une flûte.
Ouais.
Et notamment au XIXe siècle, on a beaucoup fait évoluer la flûte. Il y avait plusieurs systèmes qui se concurrençaient. Et c'est finalement le système Böhm qui a dominé.
C'était plus facile à utiliser, à construire. Quelle raison, vous savez?
Longtemps, il y a eu les deux systèmes en même temps, puisque les anciens voulaient garder leur système. Donc, il y a eu. Pourquoi il y en a un qui est resté? Peut-être il est plus véloce, plus
logique, peut-être. Théobald Böhm, c'est un musicien, flûtiste à la cour de Bavière, un compositeur, arrangeur, facteur d'instruments de musique,
voilà.
Acousticien et inventeur, excusez du peu. Il est fils d'un orfèvre, et il a exercé cette profession avant de se tourner vers la musique et vers la flûte en particulier. Notons qu'il a aussi travaillé pour un nouveau type de piano. Flûte, piano. Deux instruments qu'il aime bien sans doute, le Théo. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui aiment ces deux instruments et peut-être qui en jouent. Voici le deuxième extrait sur RDC 93.4, 92.5. Un air allemand de Théobald Böhm interprété par Roger Bourdin. Variation de Théobald Böhm pour flûte seule cette fois. On avait tout à l'heure un ensemble de flûtes. Ouais. C'est laquelle de ces flûtes qu'on entend?
La flûte en ut.
Ah, la flûte en ut, la plus répandue, c'est ça?
La plus connue, ouais.
La flûte contient de travers,
oui,
la flûte traversière.
C'est pour ça qu'elle s'appelle flûte traversière.
Et puis là, donc, on entend l'air allemand avec des variations. En musique, des variations, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire qu'on garde le thème principal, la mélodie, les accords qui se succèdent, mais on varie sur le nombre de notes, on fait de la virtuosité, des rythmes, ouais, différents, mais on reconnaît quand même en dessous le thème du début.
Le thème principal qui est un petit peu déguisé,
transformé. Ça,
ouais. Je crois que beaucoup de musiciens, Mozart par exemple, on a écrit des variations et Mozart en a écrit des célèbres sur l'air de « Ah, vous dirais-je, maman ?»
C'est ça.
Oui, elles sont assez souvent données à plusieurs instruments d'ailleurs. Et puis j'ai en mémoire l'interprétation au piano de Fazil Say et une lecture tout à fait intéressante de ces variations sur l'air de « Ah, vous dirais-je, maman ?» par Mozart à l'origine. Il y a aussi celle de Clara Askill que j'aime beaucoup. S'il aime la musique, on le saura très vite, mais qu'il apprenne le solfège d'abord. Et si cela se passe bien, dans 2 ans, il apprendra un instrument à vent. J'ai un très bon professeur de flûte, Jacques Chalanda, ancien militaire, rigoureux, discipliné. Non, c'est pas moi qui parle, je cite les paroles du directeur du conservatoire de Versailles, en réponse au père de Roger Bourdin, le flûtiste dont on parlait tout à l'heure, qui était venu lui demander si son fils pouvait s'inscrire. Ben, ça ne semblait pas rigoler tous les jours à cette époque, le conservatoire. Est-ce que c'est toujours le cas, Didier, ou est-ce que ça a un peu évolué? Dites-nous, vous qui enseignez dans un conservatoire.
Ça a beaucoup évolué.
Ah. En quel sens? Dans quelle direction? Comment?
Je pense que les pédagogies, l'esprit général a totalement évolué, totalement changé,
oui,
par rapport à cette
époque-là. notre Roger, après avoir obtenu à Versailles le premier prix de flûte à 12 ans, quand même, ouais. Il obtient celui du Conservatoire de Paris, presque naturellement, si on peut dire. Plus tard, il déclare à propos du diplôme qu'il vient d'obtenir, tout récemment, « Une carrière s'engage. C'est une espèce de petit brevet tout gentil. On en fait un mythe admirable. C'est logique, quand on est jeune, mais on s'aperçoit, une fois que l'on a ce diplôme, que tout reste à faire. » Ça vous inspire quelque chose? Une fois qu'on est diplômé du Conservatoire de Paris, tout reste à faire. C'est étonnant, non?
C'est là que ça démarre. Oui, effectivement, la vraie vie musicale, elle commence après les études.
Ouais, c'est comme l'iceberg, finalement. Il y a une grande partie invisible, puis le visible n'est qu'une infime.
Après ça, tout dépend ce qu'on en fait, quoi, finalement, de ces outils qu'on a eu au départ, comment on les fait évoluer. Quelles rencontres on va faire, surtout, qui vont déterminer tout ça porte ses fruits.
Alors, si je travaillais la flûte 4 à 5 heures par jour, quand même, nous dit aussi Roger Bourdin, j'avais un vice merveilleux, le piano. Tiens, encore un flûtiste pianiste. Dans mon fort intérieur, je voulais être pianiste. Je travaillais le piano en douce, ainsi que l'harmonie. Riche de ses études et de son talent, Bourdin a été flûtiste dans plusieurs ensembles, du duo à l'orchestre symphonique, en passant par le trio et le quatuor. Il a été soliste des concerts l'amoureux. Il a été chef d'orchestre dans des casinos, dont celui de Montaillac, pas très loin de chez nous, directeur du conservatoire à Marly-le-Roi, et ce conservatoire porte désormais son nom. Pianiste, il a accompagné sa sœur dans les mélodies de Gabriel Fauré. Oui, Didier.
Alors moi, j'ai une anecdote.
Oui, je suis preneur.
Quand j'étais... très jeune, j'ai pu assister à ses cours. Et donc, c'était incroyable parce que je me mettais dans un petit coin de la salle. Mais pendant toute l'après-midi, les élèves défilaient. En fait, il y avait toujours 4 ou 5 élèves en même temps. Donc, une ambiance incroyable. Très souvent, Roger Bourdin était au piano, donc pour accompagner les concertos, les sonates, etc. Et c'est vraiment, là, ce que je me rappelle, c'est qu'il était capable, au milieu d'un concerto de Mozart, d'embrayer sur du jazz. Souvent, ça faisait beaucoup rire les élèves qui étaient en train de jouer. Ça décontractait l'ambiance.
Donc peut-être qu'il enseignait de manière différente
tout
de l'enseignement qu'il avait, lui, reçu. Je reviens
à la situation. Ah oui, il y avait un humour incroyable, oui. Une grande générosité.
Et puis, pareil, il avait une oreille exceptionnelle, que rien ne lui échappait. De vrai, pas vrai, je pense que oui, quand même. Hein. Encore un flûtiste pianiste, donc Didier, il s'agit du deuxième rapprochement entre ces deux instruments. Nous y reviendrons encore tout à l'heure. Nous y reviendrons sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5. Roger Bourdin est un flûtiste qui s'ouvre à différents styles, différents genres. Et pour preuve, l'épisode de la chanson bien connue de Jacques Dutronc. En effet, Didier, racontez-nous si vous connaissez l'histoire. Alors, comment Roger Bourdin est-il arrivé sur le CD où chante Jacques Dutronc?
Alors, l'histoire raconte qu'il était en train d'enregistrer dans le studio d'à côté de Jacques Dutronc des sonates de Bach. Et au moment d'une pause, donc, il croise Jacques Dutronc qui n'était pas tout à fait content de ses prises de Paris s'éveille, puisque... on imagine maintenant, d'ailleurs, ce titre sans la flûte, ça serait assez...
inattendu, étonnant, assez, non, oui.
Impossible. Mmh. Et donc Roger Bourdin, qui était un grand improvisateur, propose de faire quelque chose pendant que Jacques Dutronc
chante,
va boire un pot. Quoi.
Ah,
il n'était pas là. Et en l'espace d'une demi-heure, il a donc... créer cette improvisation qui est quand même...
un peu ardue.
Quand on pense qu'il a fait ça du premier coup, j'avoue que je suis assez admiratif.
Ça a été mis en boîte, paraît-il, hein, en une seule prise.
Voilà.
Ouais. Donc il faut faire quand même un exercice, je vais dire, mental, et puis avoir des connaissances certaines. Didier, il est certes un peu plus de 5 heures, mais votre flûte peut-elle s'éveiller? Avec peut-être des extraits de ce dont on vient de parler. Thank you. déjà on a entendu des choses qui rappellent plein de souvenirs. Hein. Et il manque peut-être la voix, il manque peut-être un autre instrument. Auditrice, auditeur, je dois maintenant vous dire que Didier Nicolle est venu dans les studios accompagné. Et bien accompagné, je le pense, non, j'en suis sûr. Didier, et avec qui êtes-vous aujourd'hui? Avec qui êtes-vous venu?
Alors, donc, je suis venu avec une chanteuse, Francie, et un guitariste, Philippe, qui m'ont fait l'amitié de venir ce matin.
Ce sont des gens que vous croisez régulièrement ou
tout à
vous
fait,
les avez juste rencontrés ce matin avant de venir?
Un petit peu plus tôt quand même. Alors, puisque nous avons un groupe qui s'appelle Just Friends, comme son nom l'indique, c'est des amis, et dont fait partie également Denis, un saxophoniste.
Le quatrième larron qui n'a pas pu venir ce matin. Bonjour Francie.
Bonjour.
Merci beaucoup de votre présence, de votre participation.
Avec plaisir. Et,
bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci aussi. Je crois que le fait que vous soyez là tous les deux aujourd'hui, c'est vraiment une preuve d'amitié envers Didier, mais entre vous trois... entre vous quatre, vais-je dire, et je vais saluer Denis à distance. Alors, on a entendu quelques extraits, la partie flûte, ou plusieurs parties, avec différentes manières de jouer de la flûte, hein, déjà, et on y reviendra peut-être plus tard, mais on va peut-être entendre maintenant le trio, et ce trio, qu'est-ce qu'il va nous chanter? Ben, il va reprendre la chanson de Dutronc. Il est 5h, il est 10h34 sur RDC 93.4 et 92.5, voici, il est 5h, Paris s'éveille.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseurs sont rhabillés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5h, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne les gares, les boulangers font des bâtards. Il est 5h. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5h, Paris se lève. Il est 5h, je n'ai pas sommeil.
Merci à vous trois, vraiment, bravo, quel régal. Madame, messieurs, un plaisir, partagé, j'en suis sûr, par tous les auditeurs et toutes les auditrices de RDC 93.4, 92.5 pour l'émission d'aujourd'hui, Donnez-nous vos notes, qui accueille Didier Nicolle and Friends. Deux mots sur l'origine de la chanson. Lanzmann et Dutronc veulent écrire une chanson sur le thème de Paris le matin. C'est tout ce qu'ils ont comme idée au départ. Ils s'y attellent un soir. Le travail est achevé aux aurores. Les artistes travaillent souvent la nuit, paraît-il. Et les paroles sont inspirées d'une chanson qui s'appelle « Tableau de Paris à 5h du matin » de Marc-Antoine Madeleine des Augiers. Le texte rappelle aussi un passage de Le Bachelier de Jules Vallès. Des ouvriers vont et viennent avec un morceau de pain et leurs outils roulés dans leurs blouses, quelques boutiques, etc. Paris s'éveille, Paris s'est réveillé. Des adaptations existent dans plusieurs langues. De nombreuses reprises ont été faites, dont une par le trio, mais le quatuor peut-être, vous jouez à quatre ça ou pas ?
Non.
Non, alors c'est le trio, et le quatrième, ben, il joue d'autres choses avec vous. Moi, je voudrais savoir comment votre trio, votre quatuor, s'est constitué. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Qu'est-ce qui répond ? Didier, Francis, Philippe, les trois ?
Peut-être Francis.
Alors, moi, j'ai connu Didier, en fait, par rapport à la chorale, T-Groove, et j'ai chanté avec lui pendant un an. Et puis après, avec mon compagnon, donc Denis, voilà, on chantait comme ça, enfin je sens chanter. Et puis on a demandé à Didier si... Non, il est venu une fois à la maison et il a joué de la flûte. Et alors là, on a été subjugués.
Ouais, je comprends.
Il s'est mis au piano, on a été subjugués.
Je comprends aussi.
Et donc là-dessus, bon ben, il joue piano, donc moi je chante un petit peu derrière et tout. Et puis comme je n'ai peur de rien, je lui demande, écoute Didier, est-ce qu'éventuellement tu te mettrais avec nous pour faire un peu de musique ? Et lui, simplement, dit, ben oui, pourquoi pas.
Donc, qui ne risque rien n'a rien.
Exactement. Donc, moi, j'ai toujours eu du culot, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ça marche ou ça marche pas, mais au moins, quand on ose, on prend le risque que ça marche. Et c'était le cas.
Donc, vous étiez trois à ce moment-là, c'est
ça ? On était trois à ce moment-là. Après, il y a une autre personne qui nous a rejointes, mais qui n'a pas pu. Et donc, on a fait appel à Philippe. Et Philippe a fait un travail monstrueux. Ça veut dire que tout ce qu'on avait travaillé pendant un an... Il a incurgité pendant, il a mis seulement six
nuit
mois.
Nuit et jour à tout venant.
Incroyable. Il a fait un travail extraordinaire, Philippe, vraiment.
Alors Philippe, parlez-nous de ce groupe, de cet ensemble.
Alors, bah, c'est pas compliqué. Moi, j'ai été sollicité pour intervenir dans cette formation, ce quartet. Et en fait, ils m'ont fait une audition. Alors là, j'étais dans un état lamentable.
Liquéfié.
C'était pas ma... En fait, c'était ma première audition. Et puis, apparemment, ce que j'ai fait leur a convenu. Donc là, je me suis engagé à assimiler le répertoire. Donc effectivement, je jouais 8 heures. J'ai joué pendant 3 mois 8 heures par jour. Quoi. J'ai travaillé 8 heures
encore
par jour.
Encore plus que Bourdin qui travaillait, lui, 5 heures par jour. C'est ça. Hein
je ne sais pas. Mais bon, moi je ne suis qu'un modeste amateur. Mais
oui, dans amateur, il y a M quand même. Hein.
Ah,
il y a
oui,
aimé.
Bien sûr. Et puis, ça a matché, voilà, tout simplement. Quoi.
Ça a matché, c'est important. Bon, alors maintenant que Didier n'écoute pas, je pose une question à Francis et à Philippe. C'est bien de jouer avec Didier Nicole ?
Ah oui. Ah oui. Ça, non, mais c'est un technicien performant et surtout un flûtiste et pianiste exceptionnel. Et dans une petite formation comme un quartet, lorsqu'on a un musicien qui est capable de jouer de plusieurs instruments, c'est hyper intéressant.
Vous confirmez, Francis ?
Alors oui, parce que dans le quartet, il n'y a que trois amateurs. Donc voilà, et il y a ce professionnel. Donc effectivement, il nous apporte toutes les nuances, tout ce qui nous manque.
Son savoir-faire,
voilà.
Qui va encore
et donc,
enrichir.
Et nous, on en bénéficie. Alors lui, par contre, si vous posez la question, je ne sais pas ce qu'il va répondre.
Ben, alors on va voir. Alors Didier, c'est sympa de jouer avec les trois potes ?
Ben, tout à fait. Ben, le côté humain compte... énormément et puis on a toujours à apprendre en musique la musique notamment improvisée n'est pas forcément ma première formation donc là j'ai aussi beaucoup progressé grâce à ce groupe.
Et vous êtes de bons amis, vous êtes les bons amis les uns des autres. Tout. Ce quatuor s'appelle donc, on le rappelle, le quatuor s'appelle
Just Friends.
Ouais, juste des potes quoi. Voilà. Et tout est dit et magnifiquement dit je trouve avec le choix de ce nom pour le groupe. Didier, revenons à nos moutons. Donc Roger Bourdin, nous l'avons vu, est finalement un pianiste flûtiste, un flûtiste pianiste plutôt, par rapport à ce dont on connaît de lui, du point de vue de sa carrière. Auditrice, auditeur, il est temps de vous dire aujourd'hui, et vous l'avez déjà entendu de la bouche de Philippe ou de Francis, qu'il est un autre flûtiste pianiste dans nos studios, et c'est Didier Nicole. Didier, s'il vous plaît, parlez-nous de votre formation musicale au sens le plus large. Pourquoi et comment êtes-vous devenu flûtiste, puis pianiste ? On dit que les langues, plus on en apprend, plus c'est facile d'en apprendre. Est-ce que c'est pareil pour les instruments ou pas? Dites-nous tout.
Alors, donc là, déjà la musique, je n'ai pas commencé très jeune parce que j'ai commencé à 11 ans. Maintenant, j'ai des élèves qui commencent beaucoup plus jeunes que ça. Au début, j'étais plutôt porté sur le dessin. Hein, donc, par hasard, je suis arrivé sur la musique. D'ailleurs, grâce, entre autres, à l'influence de mes grands-parents, je salue... là où ils sont maintenant, notamment ma grand-mère maternelle qui m'a beaucoup soutenu, qui était elle-même prof de chant, pianiste.
Le bain musical,
voilà,
le bain familial.
Le grand-père paternel qui était preneur de son, et qui passe ingénieur le jour et preneur de son la nuit. Qui
alors, preneur de son,
c'est-à-dire qu'il avait, alors c'était un monsieur très, très élégant, très, avec sa petite veste, mais il avait caché dans une poche de veston un petit micro et un enregistreur, et il se mettait au troisième rang au milieu de la salle, et il enregistrait des concerts classiques, des concerts jazz, et ensuite il invitait les musiciens chez lui. Alors il avait, ça nous faisait rêver quand on était enfants, il avait un mur entier d'enceinte, et avec un rideau devant, on croyait vraiment qu'il y avait les musiciens derrière le rideau.
Ouais. Et donc la technique était déjà très au point, alors c'est ça.
Ah, il était au top de ce qui se faisait à l'époque. Mm-hmm. Et voilà, donc c'est un entourage quand même très, très porté sur la musique, sans avoir de musicien professionnel tellement dans la famille, mais très très mélomane.
Donc vous avez été le premier de la famille ?
Peut-être, alors je ne voudrais pas
oublier. En tout cas, quelqu'un. En remontant jusqu'à
oui, c'est
un
ça,
certain
ouais.
nombre de générations.
Ouais, ouais. En tout cas, donc il y a eu la flûte à partir de 11 ans. Et très vite, en fait, vers 14 ans, j'ai été très attiré également par le piano, qui d'ailleurs a pris le pas sur la flûte, puisque j'ai même arrêté à un moment donné la flûte vers 16-17 ans, et puis pour finalement la reprendre pour mes études professionnelles. Et puis à nouveau, en revenant à Angoulême, finir mes études de piano avec Brigitte Bottineau-Dumas,
que nous avons croisé tous les deux,
voilà,
vous le dire.
Ça. Et voilà, donc ça a été sans arrêt des allers-retours entre la flûte et le piano, voilà, qui chacun apporte, je trouve, énormément, puisque le piano, moi, c'est le répertoire romantique, la possibilité de faire vraiment de la musique seule, de se faire énormément plaisir.
C'est l'instrument polyphonique.
Voilà.
Et la flûte,
elle permet de jouer en orchestre, de jouer avec d'autres, donc les deux se complètent très très bien.
Ouais, alors on a parlé flûte, on a parlé flûtiste, Bourdin, parlons piano. Est-ce qu'il y a un compositeur, un pianiste, tiens, Émilie aussi compositeur, on le sait,
ouais,
moins.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un pianiste qui retient votre attention particulièrement?
Alors un pianiste, oui, et même un compositeur, effectivement, puisque ça serait Rubinstein.
Arthur Rubinstein.
Et le compositeur qui va avec, c'est Chopin, qui a été vraiment mon compositeur fétiche pendant depuis toujours.
Et je crois que ça a été aussi le compositeur fétiche de Rubinstein, Arthur Rubinstein. Et nous écoutons maintenant un morceau que vous avez choisi, qui s'appelle Andante Spianato de Frédéric Chopin par Arthur Rubinstein. Que Andante Spianato, je ne sais pas ce que ça veut dire. Andante, il y a sûrement une signification, mais l'instrumentation qu'on entend, vous pouvez nous le préciser?
Alors là, non, je n'ai pas révisé mes notes.
Alors Andante,
c'est un tempo modéré. Spianato, je ne sais pas.
C'est l'opposé de Sfordando.
Ah, d'accord.
C'est une indication de nuance ou d'appui ou d'empreinte sur les touches et sur le, le clavier. À l'écoute de cet extrait, voici le commentaire d'un auditeur. Génial Chopin, génial Rubinstein, de quoi justifier l'existence du genre humain. Un autre écrit, cela pourrait être un hymne à la nature. Deux appréciations assez différentes, je crois, mais qui se rejoignent pour saluer à la fois le pianiste, l'œuvre et son compositeur. Je crois que vous serez d'accord, Didier.
Tout à fait.
Ah, il en a fait rêver des pianistes, hein, cet Arthur, et même des pianistes en herbe. Je crois bien que c'était une ombre. Non, non, j'en suis sûr. Et puis il y a la grande polonaise brillante, qui est donc précédée dans cette Andante que nous venons d'entendre. Et cette œuvre est dédiée à l'une des élèves de Frédéric Chopin, la baronne Sarah Frances d'Est. Et cette Andante est reprise comme introduction d'un morceau, La Soledad, du groupe Pink Martini. C'est très récent. Didier, est-ce que vous craignez le courant d'air ? Cette question pourrait sembler saugrenue. Il n'y a pas de courant d'air dans le studio. Tout va bien ?
J'aime bien les courants d'air, mais plus chauds.
Ah, les courants d'air chauds ?
Ouais.
Et pourtant, plutôt qu'au temps pluvieux qui fraîchit, je fais allusion au groupe vocal courant d'air. Le groupe vocal courant d'air, je voudrais donc préciser qu'il n'y a aucune crainte à attendre en l'évoquant, pas plus qu'en écoutant, parce que qu'est-ce que c'est que ce groupe courant d'air ?
Alors,
Didier, dites-nous.
Courant d'air, c'est une chorale que j'ai créée bientôt 30 ans.
Qui avait déjà, comme le temps passe.
C'est ça, au sein de l'association Art Blaquet, qui n'existe plus maintenant, mais qui s'est transformée un peu en village session.
Oui, il y a eu des évolutions, des transformations.
Des concerts l'été.
Et avec l'ami Jean-Marc, qu'on salue.
Voilà.
L'ami Didier, qui est venu déjà dans cette émission, et puis l'ami Hugues Maté, qu'on salue aussi.
Et donc, c'est un groupe au départ qui était plutôt sur le jazz, un groupe vocal, et qui progressivement, dont le répertoire s'est étendu à la musique du monde, de la chanson de jazz, voilà, et puis qui a perduré jusqu'à maintenant avec un. C'est un groupe très dynamique. Hein, là, on vient de faire un concert avec une autre chorale.
Un rassemblement de chorale, oui, on en
voilà,
parle
ça, récemment. Donc vraiment beaucoup d'énergie dans ce chœur.
Didier, Francis, Philippe, je vous propose d'écouter quelques notes des voix du groupe vocal courant d'air. Je précise que R, il y a un S,
c'est ça,
ça donne bien l'ouverture, différents airs, différentes époques, différents styles, différents genres, et c'est très important cette ouverture, je pense. Dire Didier qu'à mon avis ça swing, ça groove, non ? Quel sens on pourrait donner au terme ça groove ?
Alors ça groove en fait c'est quand tous les musiciens sont ensemble et sentent la pulsation mais aussi l'intérieur de la pulsation ensemble.
La communication.
Voilà, et c'est vraiment
un feeling
rythmique voilà, très profond.
Ça me fait penser à un autre groupe vocal que vous dirigez. T-Groove, qu'on a eu courant d'air, avec un S, A, R, ouais. Courant d'air. Voici maintenant T-Groove. Quel drôle de nom. Pourquoi ce nom T-Groove.
Alors T-Groove, c'est tout simplement un petit groupe qui groove. Donc c'est un jeu de mots.
Un petit groupe, peu, mais qui groove quand même, vous le disiez.
Qui essaye de groover.
Qui réussit, je pense, et voici la preuve. Avec T-Groove, que vous définissez, je crois, comme un groupe vocal pop et funk.
Oui, je vous dirai un petit peu le...
Alors on écoute d'abord et vous nous en parlez. Voici T-Groove.
Calling a landslide, no escape from reality.
il s'agit d'un extrait d'un medley, c'est ça ?
C'est ça.
Alors, parlez-nous de T-Groove, de l'extrait du medley. Dites-nous tout, Didier.
Alors, donc, T-Groove, c'est un petit groupe de 17 personnes, actuellement, mais qui a commencé plus petit encore.
En nombre, vous voulez dire, pas en qualité.
Bien sûr. Et donc, la particularité, c'est que c'est a cappella, donc il n'y a pas de soutien instrumental. Et il y a une base vocale amplifiée, donc un chanteur qui a un micro.
D'accord.
Et des effets. Donc il peut par exemple rendre sa voix beaucoup plus grave ou changer le timbre, etc. C'est ce qui donne ces infrabasses qui seraient très difficiles à obtenir comme ça par la voix seule.
Mais ça demande un support technique, ça, alors.
Voilà.
C'est un environnement technique.
Il y a une partie technique assez importante. Et aussi un beatboxer. Alors, un beatboxer, c'est celui qui imite la batterie uniquement avec...
Par exemple.
Tout à fait.
J'ose.
Bravo, Stéphane.
C'était mes premiers débuts à la radio.
Hein. Ah, ouais. Donc, il y a ces deux vocalistes, on va dire, plus donc le reste de chanteurs qui sont...
Vocaliste, ça veut dire qu'ils font du travail vocal, mais pas forcément.
Alors,
c'est-à-dire
que quand on dit vocaliste, on traite vraiment la voix comme un instrument.
D'accord.
C'est peut-être la différence. Mm-hmm. Et puis donc, le reste du chœur font des voix soprane, mezzo, ténor, comme dans les autres chorales, hein, donc ce qui correspondent à des hauteurs, en fait, de voix.
Ouais, des registres, oui.
C'est ça. Et on reprend donc des choses qui, au départ, sont plutôt instrumentales pour les faire à la voix. Donc c'est à la fois l'intérêt et la difficulté de devoir faire ça. Et puis ça nous permet d'aborder, de reprendre... là, vous avez entendu Freddie Mercury... évidemment, Bohemian Rhapsody, puis un titre de Camille, ouais. Mais il y a aussi du Stevie Wonder, du Michael Jackson, etc. Toujours très rythmé. Et alors, ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est vraiment une formation que j'ai faite maintenant il y a à peu près 10 ans sur la direction de chœur musique actuelle. Et en fait, pendant cette formation, on avait beaucoup de formateurs danois, suédois, et nous, on a même eu l'occasion, la chance de pouvoir aller là-bas. Et j'ai vu des dizaines de groupes vocaux chanter ce répertoire d'un niveau excellent. Et c'est vrai qu'en rentrant, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Quoi.
Pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi avec les
voilà,
autres? Et
donc,
quels autres? Et alors, comment vous avez recruté?
Alors, au départ... Il y a eu pas mal de gens de courant d'air, mais puis d'autres, et puis maintenant, c'est des gens qui sont venus au fur et à mesure, tout simplement, se rajouter à ce groupe.
Alors, courant d'air et T-Groove, permettez-moi, Didier, de saluer et de féliciter les choristes de ces deux groupes vocaux, bien sûr, et je ne doute pas que les auditrices et les auditeurs de Donner une bonne note s'associent à moi, aujourd'hui sur RDC 93.4, 92.5, pour les féliciter. Et puis peut-être pour aller les voir dès que possible. Est-ce que chaque chorale possède un répertoire ? Alors vous avez parlé de T-Groove, mais courant d'air, c'est un répertoire particulier ou pas ?
Alors c'est un répertoire, on va dire, qui ne fait pas de classique. C'est un petit peu là, au départ, ce que je me suis promis de ne pas faire, parce que j'estimais qu'il y avait déjà sur Angoulême suffisamment de chorales qui le faisaient. Mmh. Et ensuite, de qualité en plus. Et après, donc, il va y avoir pas mal de musique du monde, mais aussi de la chanson jazz, la chanson française. C'est assez large, c'est assez éclectique comme répertoire. Peut-être assez rythmé aussi, puisqu'on aime bien... je peux pas m'empêcher de...
Ça bouge sur scène. Hein.
Voilà.
Je crois que courant d'air, récemment, vous y faisiez allusion il y a quelques minutes, participer à un rassemblement de chorale dans le sud de Charente. Comment ça se passe, un rassemblement de chorale? Ou comment ça se passe? C'est celui-ci, peut-être?
Alors, c'est des rencontres chorales, voilà, où on fait chaque groupe fait une partie, puis on finit par des chants communs. Donc ça permet de voir ce que font les autres, et aussi d'aboutir à un grand chœur, ce qui est assez rare de
ouais, c'est une rencontre, c'est des échanges.
Donc là, c'était à Blanzac.
Ouais.
Et puisque côté
du Blanzac, on dit maintenant, je crois. Oui, mais c'est ça.
D'accord. Et puisque nous avons la chance de pouvoir répéter à Blanzac, un des choristes de T-Groove habite assez proche. Donc,
ouais.
Donc, en remerciement, nous avons voulu participer à ces rencontres avec donc les différentes chorales à, avoisinante.
Je crois que c'est le moment de dire bravo et merci à celles et à ceux qui œuvrent pour le développement du chant choral, en chantant, mais aussi en dirigeant, en accompagnant, en permettant des prestations, des rencontres, des partages. Vous disiez, mettre à disposition un lieu, c'est extraordinaire pour une chorale d'avoir un lieu qui permet une répétition ou des répétitions. Didier, moi je voudrais savoir, un chef de chœur, à quoi ça sert? Pourquoi on devient chef de chœur? Comment on devient chef de chœur?
Alors là, vaste question.
Oui.
Ça sert à réunir les énergies, on va dire, à faire communiquer des gens et aboutir sur un... peut-être que les gens livrés à eux-mêmes n'arriveraient pas à ce résultat, donc ça permet de...
Canaliser les énergies.
Voilà, canaliser. C'est comme ça que je le vois pas mal, parce que je... plutôt que d'avoir soi-même un projet, bon, on en a un, mais c'est vraiment une interaction énorme entre eux.
Permettre à chacun de donner le meilleur de soi-même, voilà, au service d'un groupe.
Exactement, d'avancer artistiquement, humainement. C'est toujours formidable de voir comment les gens évoluent au fur et à mesure des années, comment ils s'épanouissent, comment ils prennent plaisir. C'est autant musical que humain, d'ailleurs.
Est-ce qu'ils vous ont dit comment ils étaient devenus choristes? Par hasard, par envie? Ils chantaient déjà ailleurs, ils chantent dans plusieurs chorales, vous avez dit pour certains, au moins dans deux, Courant d'air et Tigrou.
Ouais,
par hasard, il y avait de la lumière et ils sont entrés?
C'est assez variable. Il y a beaucoup d'hommes qui se mettent à chanter vers 50 ans, ils se disent.
Et comment quelqu'un qui chante à Tigrou, Courant d'air, ou dans une autre chorale, ou dans un groupe, sait qu'il est plutôt soprano pour les voix de femmes, alto, ténor ou basse? Comment on sait ça? Comment c'est défini?
Alors, en fait, moi je suis pas prof de chant, donc j'écoute déjà les personnes parler, on voit assez vite si leur timbre est plus aigu ou plus grave, et ensuite on essaye, on va vers là où on est attiré, plus les graves, plus les aigus, en sachant qu'en fait, c'est un peu une contrainte de la chorale de séparer les voix comme ça, mais la voix humaine elle couvre le grave, l'aigu, donc
en travaillant un peu on pourrait
même changer de pupitre. Bon, on a plus ou moins de facilité quand même dans un pupitre, mais c'est même conseillé d'aller voir,
d'écouter et de faire comme les autres, les copains d'à côté. L'objectif, c'est bien de faire avec eux et pas à côté d'eux, bien sûr. Tout le monde peut s'inscrire dans ces chorales, Courant d'air et Tigrou? Il y a un entretien?
Un petit entretien.
Tout à l'heure.
Il y a un entretien.
Et puis, moi, oui, pardon.
Après, pour l'instant, ces groupes places sont pratiquement complets, surtout Tigrou, qui Courant d'air, il y a encore quelques possibilités. Surtout chez les voix d'hommes, comme d'habitude.
Ah, tiens donc. Tigrou, Courant d'air, Tigrou. Moi, je trouve que ça sonne très bien, ces noms. Et puis, tiens, c'est peut-être le début des paroles d'une chanson, une chanson qui va forcément groover. J'ouvre une porte, pourquoi pas. On revient à un trio après ces quelques minutes de présentation de ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, c'est Jardin d'hiver. Alors, tout le monde le sait, Henri Salvador a connu une belle carrière, toutefois celle-ci a été interrompue par une éclipse autour des années 80, suivie de l'échec, échec relatif mais échec quand même, il faut bien le dire, d'une tentative de retour sur scène. Depuis, Henri profitait du bon vieux temps qui passe. En 99, il rencontre Benjamin Biolay et Keren Ahn, et ces deux artistes lui proposent Jardin d'hiver, entre autres, et d'autres textes poétiques, des musiques style bossa nova, et il décide avec Henri Salvador de retrouver le chemin des studios. Mais les maisons de disques se font tirer l'oreille, doutant d'un réel comeback possible. Finalement, c'est un ami d'Henri qui ose, Philippe Ulrich, qui apporte son soutien au projet. Naîtra Chambre avec vue, qui comprend la chanson Jardin d'hiver, que nous allons pouvoir entendre maintenant par Juste Friends.
Photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. voudrait de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. T'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre.
Bravo Philippe, bravo Didier, quelle finesse, quelle interprétation, quelle musicalité. Merci vraiment. Alors il faut dire que ce disque, ce titre et ce disque sur l'album ou en single sera un beau succès et aura un très bon accueil de la part des critiques. Il recevra plusieurs victoires de la musique et puis il y aura une tournée ou des tournées. Que demander de plus, que demander de mieux pour Henri Salvador, mais je veux oser dire avec les auditeurs que nous souhaitons la même chose pour Just Friends. Henri Salvador a réussi un des plus beaux comeback, retour de l'histoire de la chanson française à plus de 80 ans et après une carrière déjà longue de 65 ans. En 2008, il a chanté ce titre avec Linda Lemay, une chanteuse canadienne, et puis d'autres reprises suivront. Et nous avons eu le plaisir d'entendre celle de Just Friends. Donnez-nous vos notes, c'est sur RRRDDDCCCC. C'est sur RDC 93.4, 92.5. Et aujourd'hui, c'est Didier Nicole qui est notre invité, entouré de Francie, chanteuse, et de Philippe, guitariste. Sans plus de transition, c'est maintenant le moment du jeu pour les auditrices et les auditeurs de l'émission Donnez-nous vos notes sur 93.4, 92.5 RDC. Une question est posée en lien avec le déroulement de l'émission. Et puis la première auditrice ou le premier auditeur qui trouve la réponse gagne le droit d'assister à une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes et puis un CD ou un DVD. Pour gagner, c'est très simple, il suffit d'appeler le standard de RDC, je donne le numéro, précipitez-vous juste après que j'ai donné la question. Voici le numéro, c'est le 05 45 95 09 87. Le 05 45 95 09 87. La question, la voici. Pouvez-vous citer le nom d'une des deux chorales que dirige Didier Nicole? Pouvez-vous citer le nom d'une des deux chorales que dirige Didier Nicole? Vous avez le droit, auditrice, auditeur, de citer les deux. Évidemment, précipitez-vous sur vos claviers, sur vos téléphones pour composer le 05 45 95 09 87. Didier, Dina Tavares. Qui c'est Dina Tavares? Dites-nous qui est-elle.
Alors c'est une chanteuse brésilienne qui réside en Charente depuis de nombreuses années maintenant et qui a enregistré ce disque auquel j'ai pu participer il y a quelques années. Voilà.
2-3 ans.
Oula, c'est un peu plus ancien que ça.
Donc c'est
notamment le... Philippe Parent, Guimaté.
Qu'on salue aussi. Et à qui je lance une invitation, s'il m'entend, pour une prochaine émission de Donnez-vous nous la note, bien sûr. Alors, Dina Tavares, c'est une chanteuse, c'est une guitariste aussi.
Tout à fait.
Auteur, compositrice. Elle est venue s'installer en France après une victoire au prix Découverte Amérique latine de Radio France Internationale. Dans son bagage, sa passion née de sons de guitare de son père, de chants de sa mère, là aussi l'importance du milieu familial, et puis le vécu d'une trajectoire qui a débuté à, alors je vais essayer de le dire, Radio Educadora de l'État de Bahia, excusez-moi pour l'accent. Bref, un bagage qui est parsemé de concerts ensuite sur diverses scènes et dans des cafés, des théâtres à l'occasion de carnaval, que sais-je encore. Elle a été choriste d'un trio et elle a fait de nombreuses tournées dans son pays. Et puis ensuite, elle a été soliste du Quarto Crescente pour des prestations aux États-Unis et en Europe, dont elle a commencé à se rapprocher de chez nous, vais-je dire. Plus tard, elle a donné un concert qu'elle a intitulé Diamante Bruto, qui a reçu le trophée Caimni, c'est-à-dire l'équivalent des victoires de la musique au Brésil. En France, elle a enregistré deux albums. Le premier, vous venez d'en parler, Didier, c'est Lina de Vida.
On dit c'est ça,
ça comme ça. Ça veut dire ligne de vie. C'est ça. Et on dit de cet album que c'est comme un mariage entre les sonorités du Brésil et du jazz. Et il est produit dans la foulée de son arrivée en France. Il entraînera un agenda de concerts fort complet. Vous avez participé au disque, à des concerts aussi?
Non, uniquement au disque.
C'est déjà beaucoup.
Ouais.
Je trouve, quelle chance. Et puis un deuxième disque suivra, AOD. Alors c'est l'acronyme de origine, appellation d'origine décontractée. Il faut quand même le faire, je trouve. Il faut oser, c'est bien. Et puis ça témoigne des débuts de créatrice de Dina Tavares, mais de son engagement d'auteur-compositrice et de son bonheur à s'exprimer en langue française, y compris avec des clins d'œil, comme le titre que je redonne, AOD, appellation d'origine décontractée. Dans son Brésil, aux multiples facettes, Dina a traversé le souffle magique et diversifié des musiques sud-américaines, dirais-je, mais brésiliennes en particulier, et c'est resté dans sa mémoire tout autant sonore que corporelle. Sa voix douce et son jeu à la guitare nous ouvrent à la chanson paysanne teintée d'harmonie de jazz. C'est aussi la rencontre entre des styles et des endroits géographiques. Sa voix soutenue sonne parfois comme un tambour, j'ai osé le dire, une percussion qui accompagne une danse, comme les battements d'un cœur peut-être, allez savoir. Dans son pays d'accueil, la France, Dina se sent pourtant assez proche de ses origines pour se lancer encore et toujours à la conquête du bonheur avec la meilleure ligne de vie. On écoute Didier ?
Tout à fait.
Et voici un extrait de Lina de Vida, Dina Tavares et Didier Nicole. Écoutez bien. Didier Nicole, ça rappelle des souvenirs ?
Ah oui, très bon souvenir. C'était dans le studio de Ken Carter, qui se trouve en Charente, voilà, qui est une ancienne, un bâtiment, une grange aménagée en studio d'enregistrement. Et donc, c'était un très bon souvenir.
Alors, moi, j'ai envie d'écouter un autre extrait chanté par Dino Tavares. Voici un autre extrait du même album.
Oui, tout à fait.
Alors voici un second extrait. C'est Dina qui chante, qui joue certainement à la guitare.
Et on entend Philippe Parent à la guitare.
Eh voilà. On écoute.
Ai meu amor, não me faça sofrer.
Alors on a entendu une guitare, mais des percussions aussi, je crois, non ?
Tout à fait, oui. Ouais. Ah, oui. Ouais, je ne me rappelle plus les musiciens, mais brésilien, je crois, qui était
percussion. Qui avait fait le voyage, ouais. Ou qui habitait peut-être en France aussi, comme Linda. Ouais. Nous avons entendu quelque chose de très différent du premier extrait, non ?
C'était plus rapide, plus rythmé, avec notamment le rythme brésilien, très
caractéristique.
Caractéristique en dessous, ouais.
Voilà une critique parue après une prestation de Dina Tavares. Je lis. Le Mouton Noir, établissement de Romgou dans la campagne saint-ongeaise, recevait la chanteuse brésilienne Dina Tavares pour une soirée placée sous le signe de la bossa nova. Un public nombreux avait répondu à cette invitation et c'est devant la foule que la chanteuse entra en scène. Dina Tavares voue un culte passionné à deux compositeurs majeurs de la bossa nova, Antônio Carlos Jobim et Vinícius de Moraes. Tout au long de la soirée, elle a interprété avec talent des chansons de leur immense répertoire. Et puis, c'est une chanteuse qui a aussi indéniablement subi l'influence de Maria Bethania et d'Astrud Gilberto, mais elle a su se forger une identité propre pour interpréter à son tour un répertoire si souvent et si admirablement donné par ses aînés. Dina chante et elle joue aussi de la guitare sobrement, en parfaite harmonie avec ses trois musiciens. C'était le cas à l'époque dans ce lieu de concert. Son tour de chant comprend aussi des sambas plus anciennes, et là encore, elle excelle. Un superbe concert, une plongée dans l'univers de la bossa nova des 60s. Alors Didier, plusieurs choses après la découverte de cette critique, et ces choses qui m'amènent à vous poser quelques questions. Un établissement de la campagne saint-ongeaise, est-ce qu'il est important pour un musicien de partir à la conquête de tous les publics ?
Tout à fait.
Et pourquoi ? Pour se faire connaître, pour faire découvrir de la musique,
je pense que oui, faut le plus possible échanger, faire partager la musique là où elle est. En
ouvrir l'éventail, oui. Ouais. Et puis apporter celle d'ailleurs dans certains endroits, c'est ça aussi, faire connaître, faire découvrir.
Surtout sur les endroits un peu moins pourvus en salle, en proposition,
donc et
là,
diffusion culturelle.
C'est encore plus intéressant.
Une soirée placée sous le signe de la bossa nova, de la musique d'Amérique latine. Je reprends un extrait de la critique, de l'article. Que penser des concerts à thème ? Est-ce que ce n'est pas un peu trop enfermant, réducteur ? Est-ce que cela ne risque pas d'attirer principalement, au moins, un public averti, d'abord, ou pas ?
C'est le risque. Les gens qui ne sont pas spécialisés risquent de ne pas venir, alors que... Ouais, si on ouvre à différents styles, on touche plus de public, mais bon, tout est possible. En fait.
Ceci dit, si ce n'était pas le cas, puisque la salle était pleine, oui. On l'a entendu tout à l'heure.
La bossa est quand même très populaire.
Très appréciée.
Ce que j'ai découvert qu'il n'y avait pas que la bossa dans la musique brésilienne, puisque nous, en Europe, en France, on parle toujours de la bossa nova, mais en fait, il y a énormément de styles... Le choro, le foro, la samba, évidemment.
C'est des dérivés, finalement, ou des cousins, je ne sais pas.
En fait, la bossa nova est arrivée très tard dans les années 60, mais bien avant, il y avait notamment le choro que j'ai découvert aussi en Charente, puisqu'on avait fait une association qui s'appelait le choro des Charentes. Et c'est un style musical né à la fin du 19e siècle, un peu comme le jazz, de la rencontre entre la musique brésilienne, la musique africaine, la musique occidentale, et qui a créé tout un courant, un peu comme le tango ou d'autres. Mais le choro, voilà, c'est des centaines et des centaines de titres, souvent instrumentaux, mais un petit peu vocaux, que les musiciens de là-bas connaissent par cœur. C'est ce qui permet de faire des rodas de choro, où les musiciens qui ne se connaissent pas se retrouvent, par exemple, sur une place ou dans un café.
C'est faire le bœuf, quoi.
C'est l'équivalent du bœuf ou de la jam. Et c'est ce qu'on a essayé de faire donc en Charente. Et un peu plus compliqué donc à reproduire, parce que tout le monde ne connaît pas ces titres.
On entend que Dina Tavares voue un culte à d'autres artistes, à ses aînés notamment. Ça fait partie d'un processus de formation que d'admirer ses prédécesseurs, ses devanciers, ou pas ?
Bien sûr,
oui.
Bien sûr.
Faire comme eux ou s'inspirer d'eux ?
D'abord faire comme eux, s'inspirer, puis ensuite on trouve sa voix.
Forger sa propre identité,
ouais,
c'est ça ?
Petit à petit.
C'est important d'avoir sa propre identité d'artiste, d'instrumentiste.
Ça se fait tout seul, en fait, je pense.
C'est oui. Chanter et s'accompagner, c'est le cas de Dina Tavares. Alors, quand on est petit, c'est peut-être difficile de faire les deux à la fois, mais Dina Tavares le fait avec sa guitare. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier ? C'est facile de chanter avec un piano, par exemple ?
Ah non, c'est très difficile. C'est vraiment une spécialité. Enfin, il faut beaucoup s'entraîner. Hein,
ouais. Et ça vous arrive de chanter et de vous accompagner ?
Non.
Non ? Oh. Est-ce que vous accompagnez Tigrou ou
Ah oui. Par contre, j'accompagne en dirigeant notamment Courant d'air. Parce que Tigrou est a cappella, mais beaucoup, très, très souvent, à Courant d'air, je suis au piano. Ce qui permet de diriger avec la tête, qui n'est pas toujours très pratique.
Et avec le sourire, avec les yeux, peut-être, il y a toutes les expressions qui peuvent servir.
Oui, faut trouver. J'ai des codes.
Ah, on ne vous demandera pas lesquels, c'est secret. Chaque chef de chœur a sûrement les siens, et chaque choriste aussi, puisque ça marche dans un sens et dans l'autre. Ouais. Hein, c'est une communication, c'est une interaction. Dina Tavares interprète des sambas anciennes. Même si ce n'est pas très ancien, vous avez dit, hein, comme style, mais quand même les premières, on va dire. Il y a un devoir de mémoire, un devoir de transmission. C'est important pour un musicien de s'engager sur un chemin de continuité.
Tout à fait, oui. De faire vivre, en fait, la musique, elle a besoin d'être tout le temps jouée, comme la musique classique, romantique. Il faut la faire vivre, il faut la faire entendre.
Ici toujours, partout,
voilà,
et
au présent.
En toute occasion. Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. C'est sur RDC 93.4 et 92.5. Et nous recevons aujourd'hui Didier Nicole dans l'émission Donnez-nous vos notes. Paola, un prénom qui vous parle, Didier.
Tout à fait.
Qui est Paola ?
C'est une grande amie d'abord.
Ouais.
qui est baignée dans la musique brésilienne depuis son plus jeune âge, puisque ses parents sont portugais. Et qui a souhaité monter un répertoire de chansons brésiliennes où elle m'a invité, un peu comme Just Friend. Donc c'est un autre petit groupe auquel je participe.
Et il avait un nom, ce groupe ?
Alors là, il s'appelle Paulinia Trio. Et des fois, Paulinia Quintet, quand on
passe de 3 à 5.
Voilà.
Et alors, les autres instrumentistes, on peut les citer ?
Donc les instrumentistes, c'est Anthony à la guitare, qui vient d'en dessous de Bordeaux, ouais, qui est un peu spécialisé de Véronica au violon, et puis Stéphanie aux percussions, quand on peut les faire venir selon le budget du concert.
Alors si on écoutait Ella et Carioca, c'est en trio,
Là c'est une version trio.
Ouais, donc il y a... Et là, donc, Paola qui chante, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est
et
ça.
Puis
et puis, donc, Anthony Martin.
À la guitare.
À la guitare.
Ouais. Et puis ?
C'est tout.
Et c'est tout.
Et c'est
à deux ?
À trois.
À trois.
Enfin, avec ta flûte, trois.
Ah, un flûtiste. Voilà ce que j'attendais. Il y a notre flûtiste du jour, Didier Nicole. Voici Paola, Didier, Anthony, Ella et Carioca.
Ela é carioca, ela é carioca. Gosto o jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na luz dos seus olhos as noites do rio, a luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim que vive para encontrar. Na luz do seu olhar, a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela, ela é linda, ela é linda.
Auditrice, auditeur, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale, elle est certes musicale, mais elle est aussi visuelle, parce que dans le studio, nous sommes tous en train de bouger à l'écoute de cette carioca, ella es carioca. Encore des sonorités sud-américaines, c'est un style que vous appréciez particulièrement, Didier ?
La musique brésilienne en général, ouais. Oui, qui est aussi très populaire à la flûte, donc on se régale au niveau de, en tant que flûtiste, dans ce répertoire.
Et ouais. Selon vous, qu'est-ce qui peut faire qu'on est plus enclin à apprécier tel ou tel genre, tel ou tel style ? C'est l'inné, c'est l'acquis, c'est le milieu familial, l'univers social, c'est la formation, les rencontres, d'autres raisons encore ? D'où ça vient ?
Alors là, c'est multiple. Ouais. C'est multiple. Je pense qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, le milieu familial aide au départ, et puis après, c'est les goûts. Et c'est vrai que moi, je vois le lien entre la flûte et la musique brésilienne et la voix. C'est toujours ce côté très léger et très fluide de que possèdent toutes ces choses-là. Ouais. Et aussi la musique polyphonique. J'y vois pas mal de liens, en fait, entre...
Et quel est le rôle en particulier de la flûte dont vous jouez dans cet extrait-là ? Quel rôle elle tient ? C'est une mélodie ? C'est un contre-chant ?
C'est un contre-chant, improvisé. D'ailleurs, je ne fais jamais la même chose à chaque fois.
C'est important, ça, de pouvoir improviser en musique ?
C'est... Oui, c'est un petit... un plaisir de... on ne sait pas ce qu'on va faire, et puis on se jette à l'eau, alors il y a toujours une petite appréhension, puis ça... Quand ça se passe bien, on est content.
Oui, mais enfin, il faut au départ, je pense, avoir un bagage technique, instrumental assez important.
Oui, ça ne se fait pas finalement.
Vous parliez tout à l'heure de Bourdin qui passe de Mozart au jazz.
Et comme par hasard, il a aussi fait des classes d'écriture. Et voilà. Parce qu'en fait, il faut avoir d'abord intégré énormément de choses pour ensuite pouvoir jouer avec, en fait.
Et alors, comment ça peut s'établir, des équilibres, je vais appeler ça comme ça, entre des instruments, quel que soit ce qu'on a à jouer, ce qu'on vient d'entendre ou pas, il y a une continuité entre les instruments, il y a une succession, il y a une homogénéité, il y a une opposition, c'est un écho, c'est ensemble, c'est une voix principale, c'est des accompagnements, des contre-chants, vous avez dit. Comment ça s'établit tout ça ?
C'est beaucoup l'écoute pour s'équilibrer, pour justement s'harmoniser, c'est un lien qui se... une empathie en fait qui se crée entre les musiciens, qui au bout d'un moment crée quelque chose d'équilibré, d'harmonieux.
S'écouter soi, écouter l'autre, les autres, et écouter l'ensemble.
C'est vraiment un équilibre entre
les trois oreilles
autres.
À avoir quand on est musicien.
Ouais, tout à fait.
Ici c'est João Gilberto qui a écrit cette chanson. Son vrai nom c'est João Gilberto Prado Pereira de Oliveira. C'est un musicien brésilien considéré comme le principal créateur de la bossa nova, sa renommée intercontinentale. C'est en 70 que voit son album, que naît son album studio, Ella es Carioca, réalisé au Mexique. Les Cariocas, ce sont des habitants de Rio, c'est ça ?
C'est ça.
La capitale, une de la grande ville du Brésil, pas la capitale, c'est Brasilia la capitale. Mais ici, le titre de la chanson pourrait se traduire par « Elle m'est chère », parce que quelque part, c'est une déclaration d'amour, si je prends les paroles et que j'essaie de les traduire. « Elle est celle que j'aime ». Je n'ai vécu que pour trouver dans son regard la paix dont j'ai rêvé. Je sais que je suis fou d'elle, mais pour moi, elle est trop belle. Belle déclaration, n'est-ce pas ?
Presque avec... toutes les chansons brésiliennes parlent d'amour.
Ah ouais, l'amour, toujours c'est l'amour. Ça. Dans les chansons brésiliennes, mais peut-être au-delà, non ? L'amour est très présent dans la musique, dans l'art en général, quel que soit l'art. Que ce soit la littérature, la peinture, le théâtre, bref, le chant évidemment et la musique. Mais dans cette chanson-là, il y a le côté inaccessible étoile, parce que elle est trop belle pour moi, je l'aime beaucoup, mais est-ce qu'elle va m'aimer ? C'est l'aller-retour, l'espèce de...
une nostalgie dans la mêlée de gaieté dans la musique brésilienne. C'est ça qui fait qu'on apprécie, je crois.
Donnez-nous vos notes, c'est sur R, 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 D, 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 C, 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 C. donnez-nous vos notes, Didier Nicole, donnez-nous vos notes, les notes que vous donnez aujourd'hui dans l'émission du 26 octobre, 93.4 et 92.5 pour la région de Sainte. Voici un nouveau trio, c'est Tutti Flutti, le trio Tutti Flutti, c'est ça ?
C'est
trio,
ça.
Donc trois, constitués uniquement de flûtes.
Ouais.
C'est un écho, moi je vais dire, à Arcadie qu'on a entendu tout à l'heure, mais ici-là ils sont que trois. Alors qui sont ces flûtistes ?
Alors il y a Gaël Audebourg et Guillaume Coussy.
Alors je les salue tous les deux et je leur dis, comme tout à l'heure on le disait pour Jean-Marc Périssa ou Philippe Parent, qu'ils peuvent être invités à l'émission dès que possible, bien sûr. Un trio de flûte, un quatuor de flûte, un ensemble de flûte, un orchestre de flûte peut-être, ça existe tout ça, Didier ?
Bien sûr.
Donc il y a différentes formes de flûte ?
Oui, alors une flûte basse, une flûte moyennement basse qui s'appelle la flûte alto, la flûte qu'on connaît tous en ut, puis après il y a les petites flûtes piccolo qui permettent de jouer dans l'aigu.
Et alors quand on est en trio avec Tutti Flutti, voilà ce que ça peut donner, c'est un extrait de quoi ? C'est un medley.
Alors c'est une espèce de... Oui, c'est une musique qui fait penser un peu à la musique espagnole.
Donc on n'est plus au Brésil, on est en Espagne. Maintenant, la musique permet de voyager. À vous, Tutti Flutti Trio. Un des points communs à ces musiciens instrumentistes, c'est qu'ils sont flûtistes. Un autre est qu'ils sont professeurs de flûte, je crois. Flûtiste et prof, c'est possible ? Artiste, interprète et prof, mission impossible ou pas ? Didier, à votre
recommandé, avis. Au contraire.
Pourquoi ?
Parce que, on va dire, le fait de jouer nourrit l'enseignement, et puis inversement, c'est le fait d'enseigner fait progresser également.
Aussi en réponse, par rapport aux réponses que vous donnent les élèves et les différents niveaux
auxquels
ils sont, parce que
l'obligation
que vous avez des débutants et puis
C'est ça, il y a les débutants, puis il y a les plus avancés auxquels il faut arriver à formuler ce qui est intéressant dans le jeu, dans leur manière d'interpréter, ce qui nous fait aussi progresser.
En fait. La manière de les faire avancer, finalement.
Et
en sachant que chacun d'eux est unique. Il n'y a pas deux élèves.
Oui, c'est ça. Humainement, il faut s'adapter
à
chaque fois.
Ouais.
Mais, et le fait de sans arrêt se nourrir de concerts permet aussi de garder le...
Donc, inviter à aller écouter et voir.
Un professeur
résolument les deux, des concerts, bien sûr.
Ouais.
Et j'ai évoqué des ensembles, des orchestres. Didier, vous avez joué dans un orchestre, dans plusieurs, au-delà des trios et des quatuors dont vous parliez tout à l'heure.
Beaucoup de formations diverses avec guitare, harpe, donc en ensemble, quintette avant. Et puis peut-être le plus long, ça a été l'ensemble Opus 16 qui a duré
une bonne... Donc Opus 16, un clin d'œil à la Charente.
C'est ça,
16.
16 et peut-être aussi le nombre de musiciens, puisque c'était
Souvent 16 ou à peu près.
On était souvent ce 16, c'était un orchestre symphonique en miniature, puisqu'il y avait un quatuor à cordes, un quintette avant, les cuivres, les percussions, mais tous par un. ce qui permettait de faire, permettait de faire le répertoire symphonique adapté en petite formation et qui nous a permis de faire des dizaines et des dizaines de concerts dans toute la Charente et au-delà, notamment même dans des petites villes de Charente.
Et puis des rencontres avec des chorales scolaires, je crois.
Avec des chorales scolaires, c'est là que nous sommes croisés, Stéphane.
Ah, nous arrivons. Qu'est-ce que ça veut dire être musicien d'orchestre pour vous ?
Alors, il y a des musiciens d'orchestre qui ne fait que de l'orchestre, donc c'est dont c'est la spécialité. Et voilà, et puis les musiciens qui viennent uniquement sur des projets donnés. Voilà, ça devient vraiment une spécialité, on va dire, de
l'orchestre. Ouais,
c'est ça. Très souvent, les musiciens d'orchestre ne font plus d'enseignement, ils ne font que musiciens d'orchestre.
Mais comment ça vit ? Comment ça existe, un orchestre ? C'est 8h midi, 2h, 6h
c'est, alors je ne sais pas exactement, parce que moi j'ai jamais été vraiment à temps plein musicien d'orchestre, mais ils ont des services. Les répétitions sont payées, différents, ce qui est différent des comédiens.
Ah bon, musicien, c'est un métier alors.
Ah bah oui. Et voilà, et souvent, et d'ailleurs il faut monter les programmes très très vite, il y a un gros stress. Je connais des musiciens, d'excellents musiciens qui ont fini par arrêter l'orchestre à cause de la pression qui était sans arrêt de devoir monter des choses extrêmement compliquées en peu de temps, ouais, oui, et ensuite devoir être parfait tout le temps au moment des concerts.
Au top, au taquet. Ouais, ouais. Alors il y a un musicien qui est un peu spécial, il tourne le dos au spectateur. C'est le chef d'orchestre. Est-ce que chef d'orchestre et chef de chœur, il y a des points communs ? Même combat, même si c'est pas un combat, parce que la musique adoucit les mœurs, tout le monde le sait, mais quand même.
Oui, c'est, je pense que c'est à peu près le même métier.
Alors c'est un petit clin d'œil à l'ami Jacques Pézy, puisqu'on parlait depuis 16, et c'est lui qui dirigeait cet ensemble. On revient à la flûte, Didier. Il existe forcément plusieurs manières, plusieurs façons, plusieurs modes de jeu. Je veux dire, plusieurs manières de produire un son. Est-ce que vous pourriez nous faire entendre différentes manières de jouer de la flûte, comme ça, ex abrupto, en improvisation ?
Ouf.
Allez, je suis sûr qu'on va entendre les flûtes dont Didier joue. À la flûte, je certifie que ce n'était qu'à la flûte. Alors après, avec un travail, peut-être pouvez nous expliquer un travail de souffle, un travail de langue, un travail de lèvres,
oui,
de respiration. Dites-nous.
C'est plus l'aspect bruitage en fait qu'on développe sur l'instrument, donc avec des percussions, avec l'effet de souffle, et qui peut être utilisé notamment pour créer une ambiance dans un film ou dans une pièce de théâtre, et qui est aussi utilisé dans la musique contemporaine notamment.
Beaucoup. Merci beaucoup et bravo. Je vais me tourner vers le guitariste, vers Philippe, qui pensait être au repos. Mais non, Philippe, au travail. La même question pour vous. Est-ce qu'on peut faire différents objets sonores avec le corps sonore qu'est la guitare ?
Alors, on va faire un peu d'arpège, un peu de rythme, et puis un petit morceau de chorus, par exemple.
Allez-y. Ça, c'était l'arpège.
On peut faire sur le même morceau, on peut faire un peu de rythmique.
Du rythme rythmique, l'accompagnement, on va dire.
Ça peut être de la rythmique, et puis on peut finir par un petit chorus, par exemple.
Merci beaucoup, et bravo aussi, Philippe. Je vais maintenant, évidemment, regarder Francis et lui demander si avec le corps sonore, qui est le corps complet, on peut faire différents objets sonores avec la voix.
Oui, alors tout à fait. Et en plus, je vais l'illustrer avec le morceau que vient de jouer Philippe. Je vous chante, par exemple, la première partie, c'est presque une partie chantée-parlée.
Oui.
Des yeux qui font baisser les miens.
un rire qui se perd sur ta bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Donc là,
on c'est connaît la... tous cette chanson, on a voilà. reconnu le titre.
C'est... Mais maintenant, La vie en rose.
Voilà.
Et là on a fait un autre tempo. Oui. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Donc la voix, elle peut être à moitié parlée, à moitié chantée. Bien sûr, c'est l'intonation qu'on va donner par rapport aux paroles.
Avec la respiration.
Avec la respiration, et puis il faut donner une intonation. Si là, les paroles sont tristes, on ne va pas chanter ça de façon légère. Donc, il y a un peu de théâtre, en fait, dans la chanson.
L'interprétation, c'est ce que j'appelle... Mais voilà. Je crois que l'interprétation, je me retourne à l'instrumentiste, mais elle est aussi très présente, on joue de la flûte ou de la guitare.
Et c'est ce qui fait la différence, et oui, je trouve, entre
le sens des paroles, bien sûr.
Exactement.
Mais il y a quand même, je crois, une interprétation, qu'on soit flûtiste ou guitariste ou pianiste ou que sais-je encore.
On peut avoir une très bonne technique, s'il n'y a pas l'interprétation derrière, il manque quelque chose.
Ouais, c'est trop... C'est plat. Mécanique, je vais dire. Plat. Ouais, c'est ça. Préparez-vous tous les trois, car autant que je vous prévienne tout de suite, je ne vous laisserai pas sortir du studio sans que vous ayez encore une fois joué ensemble pour nous. Je gage que les auditeurs et les auditrices apprécieront tout comme moi, tout comme Jean-Marc, tout comme celles et ceux qui sont avec nous en ce 26 octobre 2023 sur RDC 93.4, 92.5. Avec Stéphane sur RDC pour Donnez-nous vos notes. Mais avant cela, c'est le moment de savoir s'il y a un gagnant, une gagnante pour le jeu ou pas. Je rappelle la question, pouvez-vous citer le nom des chorales que Didier Nicole dirige? Didier Nicole nous donne lui-même les deux réponses possibles. Les deux réponses, Didier, c'était...
Tigrove et Courant d'air.
Eh bien, bravo Elisette, parce que Elisette de Dirac, c'est elle qui gagne aujourd'hui. Elle a gagné quoi? Elle a gagné un CD ou un DVD et une invitation à participer à une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes sur RDC 93.4 et 92.5 pour la région de Saint. Didier, revenons à la succession des morceaux que vous avez choisi de nous faire entendre. On arrive résolument et j'allais dire presque avec regret vers la fin de l'émission. François Bourdin, parlons de François Bourdin. Un Bourdin chasse l'autre, un Bourdin pour commencer l'émission, un Bourdin pour finir, ou presque. Qui est ce François Bourdin, Didier?
Alors, il porte donc le même nom que Roger Bourdin, François Bourdin, mais ce n'est pas du tout la même famille. Par contre, il y a un lien, c'est qu'il a été élève de Roger Bourdin à Versailles. Il a eu son prix à Versailles. Et c'est un ancien collègue du conservatoire d'Angoulême qui a souhaité, il y a quelque temps, enregistrer toutes ses compositions. Il y a eu toute une série d'enregistrements avec différents instruments, dont cette sonate pour guitare et flûte que nous avons
enregistrée. Une sonate, qu'est-ce que c'est une sonate?
Alors, sonate, c'est une pièce instrumentale en plusieurs mouvements par opposition à une cantate qui est vocale.
Ou à une toccate qui est donnée par des instruments qui ont une touche, une guitare par exemple, un clavier, un piano, un orgue, un clavecin, que sais-je encore. Un mouvement, plusieurs mouvements, vous avez dit, qu'est-ce que c'est que ce terme barbare?
C'est les différentes parties. C'est les différentes parties d'une sonate et qui en général sont tous des vitesses, donc tempo en musique.
On entendait tout à l'heure Andante par exemple, c'est l'indication d'un mouvement, d'une vitesse,
un mouvement
tempo,
qui est plutôt moyen, modéré, et puis il y a des mouvements rapides, des mouvements lents.
Alors voici le premier extrait d'une sonate écrite par François Bourdin. Qui est-ce qui joue?
Donc là c'est Jérôme Berthollon et à la guitare, et puis moi-même.
Didier, Jérôme Didier, c'est à vous. Thank you. là, on distingue très nettement et très facilement le dialogue, vais-je dire. Ça sonne ensemble entre la guitare et la flûte. On a un autre extrait de François Bourdin.
Et aussi grâce, je dois le dire, à notre preneur de son, qui est Kim Otogali, qui nous a fait un travail remarquable et qui permet d'entendre aussi bien la guitare que la flûte, qui n'est pas toujours le cas quand on revient aux équilibres. C'est un équilibre qui est difficile à trouver en live.
Ouais. C'est aussi lui, je suppose, qui a pris le son de l'autre extrait qu'on va entendre.
Oui, tout à fait.
Alors voici un autre extrait de la même sonate.
Oui.
Toujours pour flûte.
Donc un mouvement plus rapide.
Et cette fois, c'est plus rapide comme mouvement. Presto ? Pas tout à fait.
Allegro.
Je pense que vous serez d'accord avec moi, même si on l'a déjà évoqué tout à l'heure, parce que pour que tout cela fasse musique, il faut sans doute avoir une intention d'interprétation, une envie d'offrir ces notes aux auditrices, aux auditeurs, en direct comme à distance.
Tout à fait.
Et ceci est, je crois, un objectif de toute musicienne, tout musicien, seul, en groupe, chanteur, instrumentiste, quel que soit le domaine. Il faut viser l'établissement d'une relation, une liaison entre celui ou celle qui joue et celui ou celle qui écoute, entre l'émetteur, le récepteur, pour que tout ça marche, entre guillemets, ensemble. Auditrice, auditeur, de donner une nouvelle note, disons-le et redisons-le. Le nom de l'émission oblige à s'inscrire dans cette perspective totalement. Et une fois encore aujourd'hui, nous avons eu la chance de rencontrer trois instrumentistes, Didier, Francis, Philippe, qui, sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5, savent donner leur note. Et quelle note ? On en redemande, non, je consulte la pendule. Allez, soyons de grands enfants, on dirait qu'il est 5 heures, on ferait comme si, et que RDC s'éveille. Allez, je sais que c'est pas vrai, mais et puis on entendrait à nouveau notre trio du jour. Ok Didier, ok Arche. Francis, ok Philippe, merci beaucoup. Une nouvelle fois, il est re 5 heures, c'est à vous.
Je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de balais, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid au pied, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre le jour et puis la nuit. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la ville est en trace. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font leur bâtard. Il est 5 heures. Les ouvriers sont déprimés. Les Les gens se lèvent, ils sont grimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures. Paris se lève. Il est 5 heures. Je n'ai pas sommeil.
Je suis seul dans le studio, en face des instrumentistes, mais je vais applaudir à tout rond pour bravo, bravo François, bravo Didier, bravo Philippe. Un mot me vient, bravo, et puis un autre, merci. Voilà Didier, c'est la fin ou presque du superbe voyage musical pour lequel vous avez été notre guide aujourd'hui, et quel guide. Merci beaucoup de votre passage dans les studios de RDC comme invité de l'émission Donnez-nous vos notes, que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer. J'ai vraiment beaucoup apprécié les notes que vous nous avez données. J'espère qu'il en a été de même pour les auditrices et les auditeurs, toujours plus nombreux et toujours plus nombreuses à suivre l'émission, à apprécier le parcours de chaque artiste qui sait donner ses notes. Ce matin, Didier, en vous ouvrant à nous, vous nous avez fait découvrir un musicien de talent, flûtiste, pianiste, un chef de chœur expert, un professeur motivé et donc forcément motivant, un ami de ses amis et aimé de ses amis, un homme curieux, curieux des autres, curieux de l'autre, un être généreux. Auditrice, auditeur, en recevant Didier Nicole, nous avons reçu aujourd'hui toutes ces personnes en une seule. Quelle joie! Quel plaisir d'avoir rencontré Francis, Philippe, oh combien précieux, Just Friends, n'est-ce pas Didier?
Tout à fait.
Merci Francis.
Merci à vous.
Merci Philippe.
Merci de nous avoir
reçus.
Et puis
à distance, merci Denis, saxophoniste, que je salue à distance. Auditrice, merci, auditeur, je vous remercie sincèrement de votre fidèle écoute et des témoignages de satisfaction que vous adressez à RDC après chaque émission de la série Donnez-nous vos notes. Merci à celles et ceux d'entre vous qui ont participé au jeu. Bravo à Lisette qui a gagné donc un CD ou un DVD et l'invitation à participer à une prochaine émission en tant que spectatrice attentive.
Merci beaucoup Stéphane.
Didier, dans la continuité des autres individus aussi qui ont donné leurs notes sur cette antenne, vous avez magnifiquement parlé de votre parcours musical et artistique, avec les anecdotes qui le rendent authentique, avec les moments de vie, de votre vie, qui y sont liés. Alors à vous, merci encore, bravo aussi. Rappelez-vous Didier que rien n'empêche, dans quelques temps, un deuxième passage, une deuxième visite dans l'émission Donnez-nous vos notes sur RDC 93.4, 92.5. Nous vous recevrons à nouveau avec plaisir, soyez-en persuadés.
Avec plaisir.
Un mot encore pour remercier Jean-Marc pour l'apport technique, au bénéfice de la meilleure écoute des auditrices et des auditeurs, et pour accompagner l'animateur que je suis. Auditrice, auditeur, au revoir, à bientôt, je l'espère. Le 23 novembre, même lieu, même heure, c'est Bruno Tocane qui sera l'invité de Donnez-nous vos notes sur RDC 93.4, 92.5. Autre parcours, bien sûr, autre histoire aussi, mais toujours la même passion, celle de la musique, celle du partage, celle de la rencontre, celle de l'échange. Didier Nicole, au revoir. Et à bientôt peut-être, ou plutôt non, à bientôt sûrement, merci encore.
À bientôt.
Francis, au revoir. Merci à vous également et bravo.
Merci.
Philippe, au revoir, merci à vous pareillement et bravo aussi.
Nous avons passé un excellent moment en votre compagnie, merci.
Didier avec Francis, avec Philippe, avec Denis, avec Courant d'air, avec Tigrouve, à la flûte comme au piano, avec vos collègues, avec vos élèves. Et pour vos élèves, n'oubliez pas de nous faire encore et toujours voyager grâce à la musique. Grâce aux notes que vous donnez. Merci beaucoup et d'avance pour ça, Didier. Jean-Marc, au revoir et à bientôt, évidemment avec plaisir. Je sais que tu feras tout pour que le podcast de l'émission soit accessible sur le site de RDC dès lundi. Merci déjà pour ça. Et puis tu peux lancer le générique, Jean-Marc, pour aujourd'hui sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5. Donnez-nous vos notes, c'est fini. Donnez-nous vos notes. C'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'invité d'avoir accepté de nous donner ses notes. Merci à l'invité d'être venu nous donner ses notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. C'était Donnez-nous vos notes. Une note, des notes. Donnez-nous des notes. Des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentiste, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui seulement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous aurons bientôt le plaisir de recevoir un nouvel invité ou une nouvelle invitée, et pourquoi pas un groupe d'invités. Alors, à vous toutes, à vous tous, je donne rendez-vous pour la prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. Qui voudra bien nous donner ses notes ? Merci à Jean-Marc pour la technique apportée, assurance de qualité tout au long de l'émission, et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs, de Donnez-nous vos notes. À bientôt, pour moi ce sera encore une très grande joie. Alors oui, à bientôt pour une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes. Voilà, c'est la fin.